France Culture, il est 8h16.
France Culture, les matins d'été, Julie Gacon.
Nous sommes toujours avec notre invité, l'historien du football, Fabien Archambault. Dans une première partie tout à l'heure, nous essayons de comprendre pourquoi l'on fait du foot le baromètre de l'état de santé d'une nation et pourquoi une victoire comme celle d'hier peut assez vite devenir la métaphore d'une société qui se raconte qu'elle va bien. Je voudrais prendre le temps de cette deuxième partie, Fabien Archambault, pour que vous nous disiez peut-être ce que ces quelques semaines de compétition en Russie ont raconté de l'état du monde. Peut-être un petit peu, on nous dit que le prestige de la France à l'étranger va se renforcer, que le foot est une arme redoutable de soft power. Qu'est-ce que ça peut changer dans les relations internationales en vrai ?
De toute évidence, l'image de la France sera améliorée. Ceux qui n'aiment pas trop le football vont être assez surpris, mais dans les deux, il y a deux grandes compétitions sportives internationales, les Jeux Olympiques et le football. Et en gros, les bien figurés dans une de ces deux compétitions, dans la culture de masse, dans l'opinion publique mondiale, ça a un impact.
Mais comment on le sait, comment ça se mesure ? Ce sont des visites de chefs d'État qui reçoivent en congratulant. Enfin, je veux dire, comment on le sait ?
Alors, c'est évidemment très, comme toujours en histoire culturelle, hein, c'est très difficile de mesurer cette réception. Pour vous donner un élément de comparaison, hein, avant que le football devienne ce sport de masse qui est le plus signifiant symboliquement, c'est dans les sociétés occidentales, notamment celles du Sud, les latines, c'était le cyclisme. Et donc, par exemple, il y a les souvenirs de l'ancien ambassadeur d'Italie dans l'après-guerre en France, Piero Quaroni, qui va à la boucherie rue de Varennes. Et le boucher se rend compte qu'il est italien, lui dit « Ah, vous êtes italien, l'Italie se reprend bien, elle vient de gagner le Tour de France ». Donc c'est à l'époque où il y a les équipes nationales dans le Tour de France. Donc finalement, c'était pas les 11, hein, c'était les 15 à l'époque, ceux qui composaient l'équipe nationale d'Italie, qui avec Bartali venait de remporter le Tour de France en 1948. Et voilà, c'était un homme du peuple, un commerçant, et pour lui, le fait que l'Italie ait gagné voulait dire que tout allait mieux en Italie.
Et donc si ça marche chez le boucher, ça marche en visite officielle.
Ah oui, je pense qu'après, non, il y a évidemment des considérations diplomatiques. On est dans l'écume des jours, mais pour le prestige de la France, et ça les pouvoirs politiques le savent, hein. Pour les Jeux Olympiques, ça avait commencé en 1920, aux Jeux Olympiques d'Anvers, où les puissances victorieuses de la Première Guerre mondiale, donc Belgique, France et Grande-Bretagne, avaient demandé à leur comité olympique respectif d'exclure des Jeux Olympiques les athlètes qui venaient d'Allemagne et de l'ancienne Autriche-Hongrie. Pourquoi ? Parce que ça voulait dire que les athlètes n'étaient plus des concurrents individuels, mais les représentants d'une nation. Et depuis, au ministère des Affaires étrangères, par exemple, il y a un bureau qui s'occupe de la politique sportive internationale française, voilà, qui est favoriser l'accueil des grandes compétitions, etc., etc. Donc montrer que la France a sa place dans le concert sportif international.
Alors c'est parce que lors de cette Coupe du Monde, les joueurs représentent une nation, dites-vous, enfin le collectif finit par représenter une nation dans l'imaginaire collectif, que peut-être des petits événements de la Coupe du Monde qui sont pour certains passés un peu inaperçus peuvent peut-être raconter quelque chose, entre autres. Je dis comme ça, on m'a raconté, j'ignorais un peu cette histoire-là, mais que les deux gardiens de but de l'équipe suisse étaient kosovars, ce que j'ignorais. Mais ce qu'on sait en revanche, c'est que les kosovars et les serbes ne s'entendent pas pour les raisons que l'on sait. La Serbie n'ayant toujours pas reconnu le Kosovo, et que donc ce match contre la Serbie a peut-être dit quelque chose, ou d'autres indices qui auront retenu votre attention et que vous voudriez peut-être nous raconter.
Oui, vous avez raison, hein, il y a ces deux joueurs suisses, hein, mais d'origine kosovare, hein, qui ont mimé quand ils ont marqué un but, l'aigle. Kosovar.
Signe politique ou pas alors ? Parce
totalement.
Que c'est interdit normalement.
Sûr, c'est interdit, mais évidemment, la politique est partout. Donc là, c'était explicite. Alors nous, on s'en est pas rendu compte, hein, mais les Serbes qui étaient au stade et devant leur télévision s'en sont très bien rendu compte. Et donc tout de suite, ça a pris un tour politique. Plus généralement, hein, c'est quand même maintenant, de ce point de vue-là, la FIFA veille à ce que ce soit très aseptisé. Enfin, c'est-à-dire que avoir des messages politiques de la part des athlètes, hein, qui n'ont pas le droit de le faire sous peine de sanctions, fait qu'il y a très peu de messages explicites à dimension politique. On n'est pas aux Jeux Olympiques de Mexico avec les Allemands. Là aussi, on était dans un autre contexte de revendication et de politisation générale qui était différent.
Le débat autour de la couleur du maillot espagnol, trop proche du violet castillan du drapeau de la Seconde République espagnole au goût de certains. C'était étrange aussi comme débat, ça vous a...
Là, ça renvoie au contexte politique espagnol actuel. Hein. Au-delà de la question de l'indépendance ou de l'autonomie de la Catalogne, c'est la question de la République espagnole et de la monarchie, avec des revendications qui semblent, enfin des revendications républicaines qui sont en partie portées par le mouvement autonomiste catalan, mais qui trouvent un écho plus large en Espagne avec la question du règlement de la période franquiste et d'assumer, enfin de régler la question des crimes qui ont pu être commis pendant cette période.
L'élimination prématurée de tous les pays africains lancés dans la compétition.
Alors, c'est assez surprenant. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, maintenant même plus, hein, quasiment une trentaine d'années, il y a toujours un pays africain qui passe la phase de poule, qui arrive à... En huitième de finale ou quart de finale, on se souvient du Cameroun en 1990, où la France n'étant pas qualifiée, était devenue le pays de substitution pour les supporters français. Ça peut dire quelque chose hein, sur la situation difficile économique de l'Afrique actuellement. Comme toujours, hein, le football est à la fois un reflet, enfin on peut lui faire dire beaucoup de choses, un reflet des évolutions générales, on va dire géopolitiques, économiques, mondiales, et en même temps un acteur, c'est-à-dire que le fait de bien figurer dans une Coupe du Monde est aussi le produit d'évolutions sociales, politiques, économiques particulières.
Alors tout ce qu'on a cité, est-ce que ça peut vraiment laisser des traces ou ça ne reste que du foot ?
Oui, sur le fond, ça ne reste que du foot. Mais le football a ce statut, pour l'instant, ça pourra changer, même si, en gros, le système sportif international s'est stabilisé dans la première moitié du XXe siècle, et c'est très difficile après de le changer, c'est-à-dire que on est sur du temps long. Alors, peut-être pas du temps long à la Brodelle, mais au moins du temps moyen, c'est-à-dire qu'il est structuré d'une certaine manière, et à l'intérieur, c'est le football qui tient la place du roi. Ça aurait pu être un autre sport, hein. Par exemple, là, il ne faut pas oublier qu'il y a un troisième grand événement sportif international qui passe totalement inaperçu chez nous, c'est la Coupe du Monde de cricket, qui est vraiment l'enfant direct du colonialisme britannique. Et c'est des chiffres de la Coupe du Monde de football. Hein. Vous avez des milliards de personnes qui regardent, forcément. Il y a le sous-continent indien qui est passionné par le cricket. Et chez eux, tout ce qu'on dit sur le football actuellement, on dit la même chose en Inde, au Pakistan, sur le cricket. Donc c'est vraiment pas l'histoire. Enfin, il faut surtout pas essentialiser le football. Mais ensuite, comme c'est de la culture de masse, ça fournit, c'est ce que Barthes avait étudié dans Mythologie, notamment à propos du cyclisme. Voilà, les nouvelles mythologies de la fin du XXe siècle, du début du XXIe siècle, ce sont les joueurs de football qui les fourniront, qui les fournissent déjà, avec leur surnom, par exemple, qui montre comment les masses populaires s'approprient des figures pour leur faire dire autre chose d'un destin collectif.
Bon, et cette malheureuse équipe de Croatie, alors néanmoins beaucoup plus flamboyante, c'est son nom que pour les dernières Coupes du Monde. Les spécialistes du football croate disent qu'on jouait pour la patrie. Alors nous, en France, on se serait fait à l'idée que ce n'était que du foot, mais les Croates, eux, ils ont vraiment joué pour la patrie.
Ben, il faut se rappeler que c'est un pays dont l'indépendance est assez récente, hein, qui est issu de l'ancienne Yougoslavie. Alors ce qui est intéressant, c'est comment un petit pays comme ça peut accéder à la finale de la Coupe du Monde. Hein. On l'a dit, il y avait que l'Uruguay hein, comme pays aussi petit qui a accédé à la finale de cette compétition. C'est un héritage direct des politiques sportives socialistes dans le cadre de l'ex-Yougoslavie, où dès les années 50-60, hein, ben comme dans tous les pays de l'Est, hein, on valorise le sport comme un moyen d'éducation de masse pour les jeunes, et on se donne les moyens de favoriser cette pratique sportive de masse. Bon, ce qui fait que les Croates sont très bons en water polo, en basket, en handball, aussi en football. Donc eux, de ce point de vue-là, sont les héritiers de cette ancienne Yougoslavie. Mais dans le contexte politique qui fait qu'ils ont dû affirmer leur indépendance, bah forcément, le football étant le plus important de tous ces sports, c'est lui qui a été investi en partie de ces revendications et de cette symbolique nationaliste.
Mais le foot, qui était pourtant considéré longtemps comme un sport bourgeois, et je crois que c'est seulement par opportunisme que Georges Marchais s'est mis à soutenir les Verts de Saint-Étienne.
Je pense qu'il faut lui faire le crédit de la sincérité. De
oui,
ce point de
il
vue
les
là,
aimait.
Les communistes sont très pragmatiques face à la culture de masse.
Puis il avait de quoi, les Verts de l'époque, quand même.
Tout à fait. Mais disons, a priori, des communistes, le modèle, c'est le sport amateur. C'est-à-dire que le professionnalisme est ONU. Et ONI, pardon. Il se passe, à l'intérieur du Parti communiste français, ce qui s'est passé en URSS par rapport aux grandes compétitions internationales. C'est-à-dire que après la Seconde Guerre mondiale, l'URSS rentre dans le mouvement olympique, rentre à la FIFA, et d'accord, c'est moche, c'est professionnel, alors pour le football, les grandes nations, c'est du football professionnel, mais le mouvement socialiste va être capable de montrer qu'il est à la hauteur. Chez les communistes français, il y a aussi ça, d'accord, c'est moche, le cyclisme professionnel, le football professionnel, mais ça plaît. Et de ce point de vue-là, Marchais est le produit de cette culture communiste française, qui est une culture populaire, mais qui est adaptée au contexte français, qui fait que c'est le football est un sport professionnel. C'est-à-dire qu'on l'oublie, toutes les lamentations sur l'argent dans le football, il faut pas oublier que si le football est ce qu'il est, c'est parce que dès le départ, il est le produit d'une il est une industrie culturelle particulière, une industrie sportive.
Mais peut-être sur d'autres échelles de valeur quand même à l'époque.
Alors sur d'autres échelles de valeur, mais disons voilà, ça peut expliquer le fait que Georges Marchais était sincèrement un amateur de football, comme tout c'est l'humanité, depuis le tournant de 1934-1935, parle du championnat de France, parle du Tour de France, parce que ça plaît. Et donc, il n'y a pas de raison d'être à l'écart.
Mais ça devait être en plus du pain béni. Enfin, le mot est mal choisi d'ailleurs, mais pour l'ex-URSS, que de se dire on va dans cette équipe nationale forger un sentiment national avec des joueurs qui venaient de tous les pays du bloc soviétique. Il n'y avait pas que des Russes.
Tout à fait. Ça, c'est la particularité. Alors, ça a été assez peu étudié dans le livre sur le football des nations. Qu'est-ce que c'est que cette citoyenneté soviétique en URSS, donc une citoyenneté politique, qui est faite d'un empire, d'un multinational. Qu'est-ce que ça veut dire soutenir l'équipe du URSS ? Il y a la même chose en Yougoslavie. Qu'est-ce que c'est que l'équipe de Yougoslavie ? Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté yougoslave ? Donc, comme toujours, le football renvoie à des questions fondamentales sur comment est structurée une société.
Voilà, est-ce que la réussite de cette organisation du mondial peut aider le régime russe ? Vladimir Poutine, on le verra dans les jours qui viennent, et peut-être dès aujourd'hui, avec cette rencontre prévue avec Donald Trump. Un dernier mot, Fabien Archambault, pour nous dire ce que va devenir tout ça en 2022 ou 2028, quand la Coupe du Monde se jouera à 48 équipes. Ça dira peut-être encore plus ou ça dira moins ?
Ce sera la même chose. Là, on voit qu'il y a un mouvement d'expansion. Le football est de plus en plus mondialisé. C'est d'abord une organisation, la FIFA, qui veut devenir, asseoir encore plus son hégémonie sur le système sportif international.
Merci Fabien Archambault d'avoir été l'invité des matins malgré cette courte nuit. Aujourd'hui, l'ouvrage que vous avez co-dirigé aux éditions de la Sorbonne, Le football des nations, des terrains de jeu aux communautés imaginées, est disponible en poche. À suivre, l'invité culture des matins, mais d'abord 8h30, la revue de presse internationale de Camille Magnard.